Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
La radio Ebenezer International vous présente...
Des obstacles, il peut y en avoir d'ordre financier. Et toutes les associations chrétiennes à l'heure actuelle font face à ces difficultés.
Sociopode. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, je vous dis bonjour et merci de m'accueillir chez vous avec ce nouveau numéro de Sociopode. Un programme qui nous conduira aujourd'hui au sein de l'association chrétienne, la Ligue, accompagné du directeur de la branche française, M. Marc Dereux, notre invité spécial. Je dois vous dire en passant que la Ligue est une association loi 1901. Elle est présente en France depuis plus de 70 ans et fait partie d'une mission internationale active dans plus de 130 pays. Elle est aussi membre de la Fédération protestante de France et de l'Alliance évangélique française. C'est votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous parle depuis son home studio situé dans la ville de Survilliers, en France métropolitaine, dans le Val d'Oise. Dear listeners and friends of the Digital Gospel Channel, needless to say that I am very grateful to the Lord for entrusting us this precious tool for the blessing of His people all over the world. It's a new edition of Sociopod. Our special guest today is Mr. Marc Dereux. He's the director of the French branch of La Ligue, a Christian organization whose main goal is to spread the good news around the world through Bible readings and prayers. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.frankradio.podomatic.com. www.frankradio.podomatic.com. Before sharing our microphone with Mr. Marc Dereux, let's welcome Danny and Moïse Utrell and a very nice song selected for your pleasure. He's there. Il est là. Alors que notre intervenant, M. Marc Dereux, se prépare pour nous apporter toutes ces informations concernant l'association La Ligue, je vous propose cette première plage musicale, signée de Danny et de Moïse Urtrel. Il est là. Je vous souhaite une agréable écoute. Sociopod sur Ebenezer International.
Il est
Sociopod.
Monsieur Marc Véreux, je vous remercie d'avoir donné une suite positive à notre invitation pour ce nouveau numéro de Sociopod. Je vous salue très amicalement et vous souhaite la bienvenue sur les ondes de la radio chrétienne Ebenezer International.
Merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. Je suis très heureux en tout cas de pouvoir y participer, pouvoir aussi donner comme ça à l'ensemble de nos auditeurs mon témoignage et puis faire mieux connaître aussi le travail et le ministère de la Ligue pour la lecture de la Bible.
Merci bien. Voudriez-vous tout d'abord vous présenter à nos auditeurs qui seraient sans doute très heureux de faire votre connaissance?
Alors tout d'abord, dire que je suis marié à Cathy, ça fait bientôt 22 ans que nous sommes mariés. Nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille qui maintenant sont à l'âge de l'adolescence. Et nous habitons Valence après avoir navigué depuis le nord de la France, d'où mon épouse et moi sommes originaires, en passant par Paris, par Lyon, et maintenant nous nous trouvons un peu plus au sud de la France, à Valence.
Valence, c'est sans doute une grande et belle ville. Pourriez-vous nous parler, même brièvement, de cette ville, de la région qui entoure cette ville?
Alors, Valence est une ville qui se situe dans la Drôme, une belle région qui est coincée, on va dire, entre le Vercors, les monts du Vercors et l'Ardèche, qui se situe, Valence, à une centaine de kilomètres de Lyon. C'est une ville agréable à vivre, petite ville, mais en même temps une ville où on trouve tout ce dont on a besoin, tant au niveau de la culture que des relations. Et en particulier, c'est une ville qui connaît et qui a connu un essor chrétien, de la foi chrétienne importante, hein, dans l'ensemble de la Drôme, et qui connaît beaucoup de communautés chrétiennes, d'églises qui sont présentes, et aussi d'œuvres comme la Ligue pour la lecture de la Bible qui s'est installée à Valence en 1992. Voilà, donc Valence est une ville, on dit parfois que c'est une ville évangélique parce qu'il s'y trouve beaucoup d'églises évangéliques et d'œuvres évangéliques.
Est-ce que vous les appelez comment, les habitants de Valence?
Les Valentinois.
Les Valentinois, est-ce que ils sont fiers d'entendre dire que leur ville est une ville évangélique, une ville très favorable au message?
Fiers de savoir que l'histoire du protestantisme est ancrée dans la culture du Valentinois. Et c'est vrai que, de manière générale, la Drôme et autour de Valence, on a pu connaître comme ça un réveil. Il y a ce qu'on appelle les brigadiers de la Drôme, hein, qui, il y a maintenant une centaine d'années, ont parcouru les différentes villes et villages de la Drôme, dont Valence, pour alerter sur le message de l'Évangile, encourager les gens à se tourner vers Dieu. Et donc là, on a aussi une communauté de foi très, très active, hein, puisque sur Valence même, la communauté des protestants, en tout cas, se retrouve régulièrement pour un culte en commun, réunissant facilement 1200 personnes. Donc pour la ville de Valence, c'est quand même une belle performance, si je puis m'exprimer ainsi. Et puis sur Valence, il y a un très bon contact aussi avec les autres communautés chrétiennes, et notamment la communauté catholique, qui est aussi très, très impliquée et qui vit un témoignage aussi fort de la foi en Jésus-Christ.
Donc un Valentinois n'est jamais trop choqué quand il rencontre un chrétien évangélique, lui demander par exemple s'il a déjà donné sa vie à Jésus, s'il a déjà découvert la foi, ça ne choque personne.
Alors dans le Valentinois à Valence même, les gens, je ne sais pas s'ils sont habitués, mais ils ont peut-être l'habitude, ceux qui arpentent le centre-ville, de voir et de croiser des chrétiens qui leur offrent non seulement un sandwich, mais la possibilité de discuter de la foi au moins une fois dans l'année. C'est ce qu'on appelle le barbecue géant, où l'ensemble des églises de l'Alliance évangélique du Valentinois, et parfois plus largement aussi que ces églises-là, viennent donner un témoignage au centre-ville en offrant le sandwich et la parole.
Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que les chrétiens évangéliques, les croyants évangéliques ont trouvé grâce aux yeux de la population, aux yeux des habitants valentinois?
Je le prie et je l'espère, hein, qu'effectivement, mais on a un bon contact, effectivement, je pense, sur le valentinois avec les habitants qui sont habitués à voir des ictus sur les voitures, et aussi avec les autorités locales. Qui connaissent et reconnaissent l'engagement, l'action des chrétiens protestants évangéliques en particulier dans la ville. Et les chrétiens protestants sont aussi pleinement impliqués dans l'aspect social, dans le suivi social, dans le travail social, avec l'entraide protestante, et avec aussi en accompagnant ce qu'on a vu fleurir dans beaucoup d'autres villes, le cercle de silence, pour manifester aussi publiquement parfois sa volonté de soutenir les plus démunis et les plus faibles de nos frères en humanité.
Mmh. Cela ne faisait pas partie de notre interview, mais quand même, vous avez fait des expériences dans une radio chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce qu'en France, il y a des radios chrétiennes? Ils en trouvent sur Internet, mais Radio Herzienne, c'est très discrète en France. Parlez-nous un peu de cette expérience radiophonique.
Alors, c'est vrai que des radios chrétiennes en France, il en existe peu. Il existe beaucoup de radios chrétiennes aussi catholiques, comme RCF par exemple, mm-hmm. hein, qui a une vocation dite œcuménique, à vouloir travailler aussi non seulement avec les églises catholiques, mais avec les églises protestantes. Mm-hmm. J'ai l'occasion et la joie de pouvoir animer quelques émissions et participer à quelques émissions. La Ligue a une émission aussi sur RCF 26, c'est-à-dire qui couvre la Drôme, l'Ardèche, hein, le Nyons, le Diois. Donc cette radio et RCF est implantée au niveau national avec des antennes aussi locales comme RCF 26. Et donc c'est l'occasion comme ça de rejoindre les auditeurs à travers une information et à travers surtout des méditations qui sont diffusées tout au long de la journée. Il existe d'autres radios en France, hein, dans différents endroits, qui sont souvent aussi en lien. Il existe une fédération, hein, des radios chrétiennes en France, qui permettent à ces différentes radios, comme Phare FM aussi, qui existe sur Mulhouse, qui existe aussi sur Lyon et dans d'autres régions, qui permettent à ces radios de se fortifier mutuellement, une fédération qui leur permet aussi de mieux travailler plus efficacement au niveau administratif, pour mieux servir après les auditeurs à travers le message qu'elles veulent porter.
Merci pour toutes ces précisions. Et avant de passer à la deuxième partie de notre programme, comme tout croyant évangélique, vous avez un jour donné votre vie à Jésus-Christ, même si cela fait un bon nombre d'années. Mais pouvez-vous nous en parler?
Alors, je suis né dans une famille chrétienne. Mm-hmm. Savoir que mon père et ma mère étaient et sont toujours, pour ma mère, mon père est décédé, mais sont toujours attachés au Seigneur. Mm-hmm. Eux-mêmes ne sont pas nés dans une famille chrétienne, ils le sont devenus, mais ils ont pu me montrer, manifester les valeurs de la foi, les valeurs de l'Évangile, l'importance de la prière, l'importance de la lecture de la Bible. Et je me souviens que je voyais souvent mes parents le matin, je pouvais les croiser tous les deux en train de lire la Bible ensemble et de prier. Mon père était mineur, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issu du nord de la France, j'ai grandi dans les corons, dans les maisons rouges, hein, à briques rouges. Mon père était mineur et a beaucoup travaillé aussi au fond de la mine à pouvoir témoigner de la foi. Et était investi aussi dans une communauté baptiste. Donc c'est là, dans tout cet environnement aussi, que j'ai pu grandir ma foi. Pour moi, Dieu, dès mon plus jeune âge, je veux dire, existait, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mmh. Mais j'ai pu faire l'expérience de la repentance, parce que ce qui est important aussi, c'est de comprendre, de réaliser à un moment donné sa misère devant Dieu, pour comprendre la grandeur de son amour pour nous, qui fait de nous du coup ses enfants. C'est-à-dire que tout un chacun peut croire en Dieu, et beaucoup croient en Dieu, mais de réaliser combien Dieu nous aime, il faut réaliser la misère dans laquelle on se trouve. Et je me souviens que un jour, après une réunion d'évangélisation un dimanche après-midi, comme on les avait régulièrement avec le culte le matin et les après-midi, voire les soirées, on appelait des réunions d'évangélisation, des soirées d'évangélisation. J'avais 6 ans et je suis rentré après cette réunion en ayant compris ce que le péché voulait dire, c'est-à-dire être loin de Dieu. C'est la notion du péché, c'était pas simplement de faire un acte mauvais, mais c'est d'être loin de Dieu. Et parce qu'on est loin de Dieu, on agit mal. Hein, voilà. Et quand j'ai compris ça, j'ai pleuré sur ma misère, en ayant compris que Dieu m'aimait au-delà de cette misère. Et ça, c'est quelque chose qui reste ancré en moi depuis toujours et qui me guide chaque jour, de savoir que Dieu m'aime d'un amour inaltérable et d'un amour infini. Voilà, c'est ce qui me tient chaque jour.
Vous gardez de précieux souvenirs de cette transformation que le Seigneur a opérée dans votre vie. Et qu'en est-il de votre cheminement quotidien et surtout de la croissance de votre foi en Dieu? Avez-vous une technique particulière, personnelle, pour avancer?
Alors, je ne sais pas si j'ai une technique particulière. J'essaye d'avoir une discipline. Je crois à la notion de la discipline aussi, comme l'apôtre Paul dans ses lettres nous y invite. Il n'y a pas de formule miracle de toute manière. Il y a le choix, c'est-à-dire que l'on fait les uns et les autres, de vivre notre temps avec Dieu et de passer du temps avec lui. Suivant les circonstances de la vie, suivant les moments dans l'histoire de ma vie, il y a eu des disciplines différentes. Mais la chose la plus importante et à laquelle presque naturellement je me soustrais sans complication, c'est de parler à Dieu et de savoir, puisqu'il est là, puisqu'il m'aime, il m'accueille et je peux lui parler à tout moment. Donc j'ai cette réalité au fond de moi-même, au fond de mon cœur, qui fait qu'à n'importe quelle occasion, lorsque je me lève, je peux lui dire merci. Et une chose qui est importante, c'est juste en me réveillant de dire merci pour cette journée, merci pour le cadeau de cette journée, merci pour le cadeau de la présence de Dieu. Et de passer du temps avec Dieu, c'est aussi prendre du temps à lire ma Bible, et pas à la lire de manière technique, mais à cœur ouvert. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Alors, il y a eu des périodes où je lisais plusieurs chapitres, la Bible en un an, je l'ai suivi aussi pendant des années, ce qui m'a permis d'avoir lu ma Bible au moins une vingtaine de fois, comme ça. J'aime bien aussi m'arrêter juste sur quelques passages et pouvoir les méditer dans la journée. Être encouragé aussi à travers des commentaires. On va parler de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a comme service à offrir aux chrétiens justement des commentaires qui accompagnent la lecture de la Bible pour encourager les gens et qui permettent comme ça aux gens de tenir une discipline aussi, hein, puisque parfois c'est pas facile. À chaque période de ma vie, il y a eu des moments où j'ai choisi une technique particulière qui me correspondait, qui correspondait à mon agenda, qui correspondait à mes relations. C'est sûr, quand on a une famille, on vit peut-être les choses différemment que quand on est tout seul. Quand on a des enfants en bas âge, on les vit différemment quand on a des enfants ados. Ce qui va être important, c'est que dans ma journée, je passe du temps avec Dieu, je réserve du temps avec Dieu. Ça va être un quart d'heure, vraiment, ça va être une heure. Ça va être plus si j'en ressens le besoin, mais tout au long de la journée, par contre, c'est de ruminer, de mâchonner ce que Dieu m'a laissé à travers un texte biblique, à travers une prière, à travers une pensée qui fasse que je me tourne vers lui constamment. Et j'essaye, et nous essayons en famille de vivre ça aussi. Et en particulier dans les temps à table où on va prier ensemble, où parfois on va avoir une prière qu'on va lire ensemble, ou juste un verset biblique qu'on va lire ensemble. Sans systématiser, pour pas que ce soit, j'allais dire, une sorte de routine qui soit difficile à vivre, mais en essayant de le vivre le plus naturellement possible, comme on passe du temps avec son conjoint et qu'on aime passer du temps avec son conjoint.
Donc votre relation avec Dieu, c'est pas quelque chose de sporadique, mais c'est vraiment une relation constante, permanente, que vous nourrissez de différentes façons, soit par la prière ou par la lecture de la Bible, et même par la communion fraternelle.
Voilà, tout à fait. En tout cas, je peux pas imaginer une seconde passer une journée sans avoir lu ma Bible, que ce soit quelques versets ou quelques chapitres, et sans avoir parlé avec Dieu dans la prière. Et ça, c'est impossible. Enfin, ça a été impossible jusqu'à présent, et que Dieu me fasse grâce pour continuer, parce que c'est un réel plaisir que de passer du temps avec Dieu, où Dieu à la fois nous réconforte, où Dieu nous exhorte, nous aide dans nos choix aussi au quotidien, nous remet sur une voie, et malgré les errances qu'on peut vivre, les à côté qui lui plaisent pas, de savoir qu'il est là, et de se dire, voilà, là, Dieu, je t'ai offensé par telle manière de vivre, telle manière de parler, telle manière de penser, et Dieu est présent pour nous accorder son pardon et sa grâce. Et non, je peux pas imaginer une journée sans me tourner vers lui de quelque manière que ce soit, à travers la prière, la lecture de la Bible, le temps passé aussi avec d'autres à parler de Dieu.
Merci. Nous allons écouter un artiste que vous connaissez déjà sans doute, c'est Philippe de Courou.
Tout à fait, et dont j'apprécie énormément la profondeur des paroles et ses chants.
Écoutons Une autre terre, Philippe de Courou sur la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Sociopode. Bonne écoute à toutes et à tous. Sociopode.
Des rêves plein la tête, Pas le temps de chercher qui je suis, d'où je viens. Je cours, rien ne m'arrête. Sur le bateau de la musique, je m'engage à perpète. Je n'ai rien qu'un désir pathétique, le besoin de connaître une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un petit univers sous le soleil. Je prends la route déterminée, coûte que coûte, je vais trouver. Dès 1985, bateau en perdition. Sur mon océan, tous déglinguent, c'est le temps des questions. Au fond de moi, l'appel résonne, brûlant comme un grand feu. Je saisis pas tout, mais je m'abandonne. Je découvre avec Dieu une autre terre, un autre ciel. Pour moi, un nouvel univers sous le soleil. Je chante de route. Chanter, crier sans fin l'amour et la colère. Peupler le ciel, piller l'enfer. Je suis pas seul et j'avance. Chaque jour, faire la guerre à la guerre. Partager la souffrance d'une autre terre, un autre ciel. Pour toi, un nouvel univers sous le soleil. Je t'ouvre la route, faut décider. Bannir tes doutes. Et t'engager. Hiver de mille et des poussières, je tire ma révérence. Dernier appel, dernière prière, moi j'écoute en silence. J'ai fait le mieux que j'ai pu faire, je laisse pas de regrets. Je passe le flambeau, tu es derrière, sans moi pour annoncer une autre terre, un autre ciel. Pour toi, un nouvel univers sous le soleil. Fini ma route, je pars sans toi, je laisse pas de doute, je t'attends là-bas. Fini ma route, je pars sans toi, je laisse pas de doute. Je t'attends là-bas. Une autre terre. Oh, une autre terre.
Monsieur Marc Dereux, comment est donc né cet élan pour la propagation des valeurs chrétiennes? Avez-vous côtoyé des gens qui travaillaient dans ce domaine avant de vous engager dans l'association dont vous allez nous parler d'ici peu?
Les premières personnes qui ont été marquantes pour moi, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler tout à l'heure avant la pause musicale, ce sont mes parents. Mes parents qui m'ont manifesté un engagement de foi et des valeurs chrétiennes fortes. Et pas simplement une religion, mais une relation avec Dieu. Et ça, ça a été déterminant pour les choix que j'ai pu faire ensuite. J'ai vu mes parents aussi engagés dans l'église dans laquelle nous étions, que ce soit pour la prédication, que ce soit pour l'école du dimanche, pour les travaux, pour les choses, j'allais dire, du quotidien, du ménage, comme pour les choses de l'évangélisation. Mon père avait été très marqué par le message de l'évangile dans sa vie, et il avait envie de le partager autour de lui, et donc il n'hésitait pas à parler de Dieu. Ça faisait partie de son quotidien, et tout le monde le connaissait, le reconnaissait dans la ville où nous habitions comme quelqu'un de croyant, de chrétien. Ma mère, c'est pareil, elle va témoigner encore à 84 ans, hein, autour d'elle, de manière très simple, de manière très très ouverte, très naturelle aussi, sans forcer le trait, mais en n'ayant pas peur de dire voilà qu'elle aime Jésus et que Jésus l'aime. Donc c'est les premières personnes qui m'ont conduit dans la foi et dans l'engagement. Et donc très tôt est né en moi le désir aussi de servir le Seigneur. Et je sais qu'à l'âge de 11 ans, voilà, j'ai prié le Seigneur, je lui ai demandé aussi un signe particulier, pour savoir si je, voilà, il acceptait que je m'engage à temps plein pour le servir. Et donc, pour moi, à partir de cet âge-là, de cette expérience-là particulière pour moi, hein, est né vraiment le désir de servir Dieu complètement. Pour moi, à l'époque, c'était de devenir pasteur. Et puis, j'ai fait mes études, et à travers aussi les rencontres que j'ai pu avoir dans ma propre église, et de voir aussi les pasteurs, hein, avoir le contact avec les pasteurs de mon église, être encouragé à aller dans cette voie. Au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, des études scientifiques, je voulais devenir ingénieur, jusqu'à ce que cette vocation m'ait rappelé quelque part aussi à travers des contacts. J'étais beaucoup engagé au niveau du groupe de jeunes, au niveau de ma foi dans l'église, je la partageais, au niveau de la musique aussi. Et lors d'une conférence où était exposé le travail de la faculté de Vaux-sur-Seine, faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne, j'ai ressenti que Dieu m'appelait à y aller. Et donc, au moment où j'ai eu mon bac, à 17 ans, j'ai dit: Seigneur, si j'ai mon bac, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Et donc, je me suis engagé, puisque j'ai eu mon bac, à poursuivre des études de théologie. Je suis rentré en faculté de théologie. Et je me souviens qu'à cette époque-là, ma mère, qui pourtant soutenait mon engagement de foi, ma vocation, m'avait dit: écoute, c'est bien quand même d'avoir un métier. Apprends d'abord un métier avant de t'engager comme ça pour le Seigneur en tant que pasteur. Et je lui ai dit: si ça ne marche pas, je peux revenir à 17 ans si je fais un an de théologie. Je pourrais revenir et reprendre mes études scientifiques, chose que je n'ai pas faite puisque j'ai poursuivi. Et puis d'enchaînement comme ça aussi, et de contacts et de propositions, je me suis engagé à suivre le Seigneur. J'étais engagé comme pasteur dans la Fédération des Églises Baptistes de France, à laquelle j'appartiens toujours. Et pendant 2 années, j'ai travaillé à Lille comme pasteur et comme objecteur de conscience impliqué dans le travail social auprès des personnes sans domicile. J'ai appris la vie en communauté aussi, en communauté auprès des plus pauvres pendant ces 2 années. Et ensuite, avec mon épouse, puisqu'on s'est mariés alors que nous étions à Lille, on a été appelés par l'église baptiste de Lyon, où j'ai pu servir pendant 11 ans. Accepté comme directeur de la Ligue pour lecture de la Bible, que je sers depuis maintenant 10 ans.
Beaucoup d'années d'expérience dans le ministère, et c'est sans doute ce qui vous a conduit dans cette association dont vous allez nous parler. Tout d'abord, comment est née la Ligue? Depuis combien d'années elle existe sur le terrain, et dans quelles circonstances a-t-elle été créée?
La Ligue est née en Angleterre en 1867, après un long cheminement dans le cœur et dans la vie d'un jeune homme, Josias Spears, qui avait le désir de partager l'évangile aux enfants de manière différente de ce qui se faisait à l'époque. Il est vrai que dans les églises anglicanes auxquelles il appartenait, Josias Spears voulait qu'on partage la foi, les histoires de la Bible, autrement que de manière très scolaire, comme c'était le cas. Et un jour qu'il se promenait dans le sud de l'Angleterre, sur les plages, Il a eu l'idée, il a été attiré par un groupe d'enfants qui jouaient sur le sable avec des galets. Et en se joignant à eux, bah, petit à petit, en utilisant les galets, il leur a raconté l'histoire de Jésus à travers des paraboles. En utilisant les pierres, de rappeler à ses enfants que Dieu les aime, que Dieu est amour. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, ben voilà, c'est ce à quoi j'ai été appelé, à annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux enfants, et de manière dynamique, de manière ludique, à travers aussi le jeu. Et beaucoup d'autres personnes se sont joints à lui. Et petit à petit, à Londres, bah, il y a eu tout un groupe de personnes qui ont évangélisé les enfants de cette manière-là. Et donc, en 1867, est née la Ligue pour la lecture de la Bible, qu'on n'appelait pas la Ligue pour la lecture de la Bible à cette époque, qui est devenue la Scripture Union pour les anglophones. Mm-hmm. Et donc, voilà, le travail s'est mis en place avec un comité qui s'est mis en place. Et 10 ans plus tard, en 1877, c'est une jeune fille qui a été interpellée aussi par ce travail, a envoyé ce qu'elle avait préparé, une liste de lectures bibliques qu'elle avait préparée pour l'ensemble de ses catéchumènes, des jeunes filles qu'elle avait à l'école du dimanche à l'époque. Et elle avait vraiment à cœur de faire lire la Bible à ses enfants de manière régulière, quotidienne. Et donc, elle a établi un plan de lecture pour chaque jour, pour ces jeunes filles. Et elle s'est dit, ça peut-être intéresser aussi le travail de la Scripture Union, de la Ligue. Et elle a envoyé à la Ligue, au comité de la Ligue à Londres, cette proposition. Et de là est née les listes de lecture qui ont lancé le ministère aussi de la Ligue sur l'encouragement à la lecture de la Bible. Mmh. Voilà. Et maintenant, la Ligue est présente dans plus de 130 pays, avec cette volonté d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aux enfants d'abord, aux jeunes et aux familles. Donc avec le temps, ça s'est élargi. Et puis, encourager toute personne à rencontrer Dieu par la lecture de la Bible et la prière.
Donc l'objectif principal au départ, c'était l'évangélisation des enfants, les aider à se familiariser avec la lecture de la Bible, les Saintes Écritures. Et votre rayon d'action, c'est en fait le monde entier. Vous ne vous situez pas en France seulement, il y a d'autres pays dans votre rayon d'action.
Tout à fait. En France, la Ligue a commencé en 1930. Mais effectivement, c'est d'abord parti en 1867 de Londres, et petit à petit, ça a gagné d'autres pays, et notamment toutes les colonies anglaises, l'Australie, Nouvelle-Zélande, l'Europe, petit à petit, en Suisse avant la France, et petit à petit, ça a gagné les 5 continents, et maintenant, le travail de la Ligue pour la lecture de la Bible se décline de manière différente suivant les besoins dans les pays, mais toujours avec cette volonté d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et encourager toute personne à rencontrer Dieu chaque jour par la lecture de la Bible et la prière.
La Ligue est une association régie par la loi française, association loi 1901. Et quelle est la composition de l'équipe administrative de
Alors, cette comme association. Toute association loi 1901, ce qui régit et ce qui dirige l'association, c'est l'Assemblée Générale, qui est constituée à peu près d'une quarantaine de personnes, issus de milieux ecclésiastiques et confessionnels différents, réunis autour, pas d'une confession de foi, mais de principes d'action, puisque la Ligue pour la lecture de la Bible n'est pas une église et ne veut pas être une église, considérée comme une église. Elle est au service des églises, donc on n'a pas de confession de foi, mais on a des principes d'action et puis une base doctrinale. Donc tous ceux qui se reconnaissent dans ces principes d'action et cette base doctrinale, peuvent s'engager et s'engager aussi comme membres de l'association. Donc parmi la quarantaine de membres, il y a des personnes qui sont engagées comme bénévoles, d'autres qui représentent plus un mouvement d'église ou plus une œuvre une autre œuvre avec laquelle on a des partenariats. Donc il y a un conseil d'administration, ensuite il y a une équipe de direction, et puis donc des salariés, hein, tout un ensemble de salariés. À l'heure actuelle, les permanents salariés représentent une vingtaine de personnes sur l'ensemble de la France, entre le site où on a notre siège administratif et social à Valence, et puis d'autres qui travaillent chez eux, et puis le centre de vacances que nous avons aussi en Alsace, au Rimnisov.
Donc, si je comprends bien, l'association, la Ligue, est divisée en plusieurs branches d'activité. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, alors on a plusieurs branches d'activité qui sont toutes liées à nos deux objectifs. Alors, historiquement, la première branche d'activité qui a été développée, c'est les séjours, les camps, les colos. Donc, en 1930, ça a été la première, en 1936, le premier camp qui s'est mis en place dans le sud de la France. Et donc, petit à petit, la Ligue a progressé dans ce domaine en essayant d'élargir sur tout le territoire les offres qui sont proposées au niveau des séjours. Et dans nos séjours, la particularité, c'est vraiment de prendre du temps aussi pour lire la Bible, pour comprendre la Bible, et aider les enfants à entrer dans une dynamique aussi d'autonomie de lecture de la Bible. C'est-à-dire qu'on va effectivement avoir chaque jour un temps de lecture de la Bible et de prière, mais on va leur apprendre aussi à lire la Bible seule, puisque après le camp, ils vont se retrouver seuls, parfois dans des familles non chrétiennes. Donc comment les encourager à poursuivre cette bonne habitude de rencontrer Dieu à travers la découverte de ce qu'il nous a laissé dans la Bible. Donc ça, c'est le premier, historiquement, première activité aussi importante. L'autre activité, c'est liée à la lecture de la Bible et l'encouragement à la lecture de la Bible avec l'édition de périodiques, à la fois pour les enfants. On a par exemple un périodique qui s'appelle Tournesol, c'est un magazine de BD, hein, de bande dessinée, pour l'édification, pour l'évangélisation aussi. On a après d'autres publications pour aider les jeunes à lire la Bible tous les jours, à les accompagner dans leur lecture de la Bible tous les jours, comme l'Explorateur. Pour les jeunes, c'est RDV, et pour les adultes, on a le guide, et puis le pain du jour. Voilà, donc ça, ce sont les périodiques que nous offrons aussi pour accompagner la lecture biblique de tout un chacun suivant son âge.
Voilà. Comment avez-vous fait pour trouver les premiers membres adhérents à cette association, puisque vous en avez des frères et sœurs ou des amis qui soutiennent ce ministère?
Alors, les premiers membres ont été ceux qui ont bénéficié parfois des services. Aussi à travers les camps, à travers les séjours, qui ont pu être au bénéfice aussi du travail d'encouragement à la lecture de la Bible. Puis petit à petit, la Ligue s'est adjoint d'autres activités, comme par exemple l'activité d'édition, puisqu'on a un catalogue avec près de 300 titres, hein, à notre catalogue. Donc les gens nous connaissent par ce biais-là, hein, nous connaissent par ce contact-là, et puis le contact aussi au niveau des formations à l'animation biblique pour les enfants, puisqu'on aide aussi tous ceux qui ont la charge de la formation dans les églises pour animer des temps avec les enfants.
Des obstacles, monsieur Marc Dereux, il y en a dans tous les domaines. Vous en avez sans doute rencontré. Quel est votre plus efficace moyen de les combattre ?
Le plus efficace moyen, je ne sais pas s'il en existe, mais ce qui est important, c'est déjà les obstacles, de ne pas les nier, c'est-à-dire de reconnaître qu'ils existent et qu'ils sont là, leur donner une réalité pour pouvoir mieux les cerner. Voilà. Et en les cernant, on peut peut-être mieux se préparer, soit à les contourner, soit à y faire face, et surtout à les présenter à Dieu. Donc le moyen le plus efficace, c'est effectivement de discerner ces problèmes, ces difficultés, et de demander aussi à Dieu son aide pour nous aider à passer outre ces obstacles. Et que ces obstacles ne soient pas des points de non-retour qui nous fassent retourner en arrière, mais au contraire des moyens de nous pousser plus loin encore avec le Seigneur. Donc des obstacles, il peut y en avoir d'ordre financier, et toutes les associations chrétiennes à l'heure actuelle font face à ces difficultés. Donc à nous d'être sages, d'avoir cette sagesse aussi pour bien gérer les choses et revoir à chaque fois les priorités. Donc le fait de réviser, de revisiter nos priorités à la lumière de ce que Dieu nous demande aussi, de revenir toujours à la première vocation, c'est aussi important. Donc c'est important par exemple pour la Ligue de revenir à chaque fois à quoi le Seigneur nous a appelés premièrement, et donc on revient à nos objectifs qu'on citait tout à l'heure, hein, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et encourager les gens à rencontrer Dieu par la lecture de la Bible et la prière.
Avec toutes ces responsabilités que vous avez dans cette association, comment parvenez-vous à financer vos différents projets?
Alors, à travers nos activités, souvent on rappelle que ce sont des services pour lesquels on demande une compensation financière. C'est-à-dire nos ouvrages, les éditions en particulier, sont un moyen important pour nous aussi, qui représente un pourcentage important de notre budget, pour pouvoir faire vivre des activités qui, c'est-à-dire, ne génèrent pas de financement nous permettant de fonctionner. Donc, quelque part, si vous achetez un livre à la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est pas simplement un échange, j'allais dire, avec un chèque ou des billets que vous faites. En l'achetant, vous nous aidez aussi à pouvoir accueillir des enfants dans nos centres de vacances. Vous nous aidez de cette manière-là aussi à former les responsables d'école du dimanche ou de catéchèse. Parce que cet aspect, c'est-à-dire commercial, est là pour aider après d'autres aspects qui ne le sont pas. Voilà, donc on a tout un aspect comme ça. Donc en fonction des circonstances, de la vie économique, etc., on essaye d'adapter. Et puis, il y a énormément de donateurs. On compte près de 3000 donateurs qui, fidèlement, nous aident et permettent comme ça à nos actions de pouvoir être menées sereinement.
Je vais vous permettre, pour notre deuxième pause musicale, de découvrir une nouvelle voix de la musique chrétienne francophone. C'est bien Peggy qui sera notre invitée dans la prochaine édition de Mikonak, un programme conçu pour nous aider, pour vous aider à mieux connaître les artistes chrétiens.
Sociopod sur Ebenezer International.
Seigneur, viens me visiter. Viens me transformer.
Guitar Gospel Journal.
Monsieur Marc Dereux, comment et sous quelles conditions recrutez-vous les nouveaux membres de l'association La Ligue?
Alors, La Ligue fonctionne avec beaucoup de bénévoles. On a parlé tout à l'heure de la structure, à dire, institutionnelle, avec les membres de l'association, une quarantaine à l'heure actuelle, un conseil d'administration, une vingtaine de salariés. Mais la Ligue ne pourrait pas fonctionner sans le soutien des donateurs aussi, dont nous avons parlé, et des nombreux bénévoles. Et on compte près de 700 bénévoles.
Donc, si j'ai bien compris, la Ligue fonctionne surtout avec l'aide de ces centaines de bénévoles qui offrent leurs services gratuitement à cette association, dont l'objectif principal est d'aider les gens à comprendre la parole de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu pour leur vie.
Voilà, tout à fait. Enfin, ces personnes sont engagées à des titres et à des niveaux différents. Hein. Je parlais de 700 bénévoles qu'on peut repérer, qui soit sont engagés dans nos séjours comme animateurs, comme directeurs, comme personnel technique, soit qui sont des relecteurs pour nos ouvrages, soit qui sont des traducteurs, soit qui sont des rédacteurs de notes bibliques. Soit qui sont investis dans des comités aussi d'activités particulières à travers toute la France, soit qui sont des relais ligues, c'est-à-dire dans les églises, des personnes qui vont relayer l'information de la Ligue à travers les sujets de prière, à travers les besoins particuliers, de faire connaître aussi non seulement ses besoins, mais faire connaître aussi les ressources que l'on propose dans leur église propre. Donc ces bénévoles, on aime bien les appeler des ligueurs parce qu'ils sont liés au ministère de la Ligue, pas simplement à l'association de la Ligue, mais au ministère de la Ligue. Alors il y a d'une part les membres de l'association qui ont une mission stratégique particulière, on va dire, et après tous ceux qui sont engagés dans l'action et sans qui la Ligue ne pourrait pas subsister et continuer de travailler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ces plus de 700 bénévoles qui travaillent avec nous sont issus de milieux ecclésiastiques, confessionnels très divers, parce que on ne regroupe pas autour d'une confession, mais autour d'une base doctrinale, comme je l'ai rappelé aussi tout à l'heure. Et donc, on se trouve avec des ménonites, avec des baptistes, avec des darbistes, avec des catholiques, avec des réformés, avec des luthériens, avec des évangéliques sans dénomination particulière, tous désireux en tout cas de partager leur foi avec d'autres et tous désireux d'encourager les gens à faire cette rencontre avec Dieu particulière dans la prière, dans la lecture de la Bible.
Et au niveau de la Ligue, est-ce que vous avez des séances de formation pour les membres qui souhaitent y apporter une meilleure contribution, ou même les personnes qui veulent s'intégrer dans votre équipe?
Alors, on n'a pas de formation particulière. On a, suivant les domaines d'engagement que souhaitent les personnes, on va avoir dans le département édition un suivi particulier des personnes qui veulent faire de la relecture en leur envoyant des documents, en travaillant un petit peu avec eux. Au niveau des notes bibliques, on va repérer certaines personnes à travers des contacts qu'on a pu avoir et qui pourraient très bien correspondre à ce qu'on attend d'elles pour écrire une note qui va accompagner la lecture biblique de quelqu'un. Et on va voir des rencontres régulières avec l'ensemble de ces rédacteurs pour les informer de l'avancée, pour avoir des temps de travail en groupe. On va avoir des temps aussi pour nos séjours de rencontres avec l'ensemble des directeurs pour travailler avec eux sur les projets pédagogiques, voir comment ils travaillent avec leur propre équipe, que ce soit pédagogique ou technique. Donc il y a ces différents lieux qui existent, et puis on essaye d'avoir une fois de temps en temps des rencontres, et c'est un objectif aussi d'avoir ça de manière beaucoup plus régulière, des rencontres peut-être au niveau des régions, parce que c'est parfois difficile au niveau national, mais pour réunir ces différents bénévoles qui sont investis dans des domaines très très différents, mais pour leur permettre de se retrouver ensemble.
Donc vous êtes bien sur la radio chrétienne Ebenezer internationale à l'heure de Sociopod avec notre invité monsieur Marc Dereux, responsable de l'association La Ligue. Et monsieur Dereux, pensez-vous à l'avenir créer d'autres secteurs d'activité au niveau de l'association?
Alors, des projets, il y en a toujours beaucoup. C'est vrai que tout le domaine des sites internet, on a déjà pas mal développé ce secteur-là d'activité sur le domaine du numérique, du livre numérique, pour pouvoir offrir au plus grand nombre et de manière très diverse aussi les ouvrages d'édification qu'on propose. L'important, c'est toujours dans les activités qu'on peut faire de savoir si on répond aux objectifs qu'on a en premier lieu, qui nous portent, hein, comme notre vision, la vision qu'on a d'apporter la parole de Dieu dans les cœurs et de faire en sorte que cette parole puisse avoir une résonance tous les jours aussi. Donc ça, c'est la chose la plus importante. Donc parfois il est nécessaire d'arrêter des activités aussi plutôt que d'en créer de nouvelles. Voilà, donc tout dépend un peu comment on peut être conduit par Dieu en fonction des circonstances. Et ce qui est important, c'est toujours de répondre à l'appel de Dieu et du service. Donc de ne pas mettre en place ou de créer des activités pour juste en créer, mais pour répondre à des besoins, des attentes qu'on a pu discerner autour de nous.
Et s'il y a certains de nos auditeurs, et je suis certain qu'il y en aura, qui voudraient se joindre à vous, par quels moyens ils y parviendront?
Alors j'invite tous ceux qui sont à proximité de Valence de venir nous rendre visite, hein, sur le lieu de notre siège social et administratif. Ça permet de mieux connaître aussi les personnes qui travaillent, hein, les permanents qui sont là-bas. Donc ça se trouve boulevard Gustave André, au 51 boulevard Gustave André à Valence. Sinon, j'invite tout un chacun qui se trouve sûrement au loin aussi des auditeurs qui nous écoutent à mieux nous connaître à travers notre site internet www.laligue.net, www.laligue.net.
Et auriez-vous une pensée particulière pour vos collaborateurs, tous ces bénévoles qui travaillent avec vous dans cette association?
Chaque jour, hein, je suis reconnaissant pour la consécration que les uns et les autres donnent à leur travail. L'ensemble des bénévoles, je ne les connais pas tous, malheureusement, mais je suis vraiment reconnaissant pour le temps qu'ils consacrent et le fait qu'ils aient envie de travailler pour le Seigneur à travers la Ligue. Parce que ce qui est important, c'est avant tout de se dire qu'on travaille pour le Seigneur, on ne travaille pas pour la Ligue, on travaille à la Ligue pour le Seigneur. Et que chacun ait toujours cette pensée de travailler pour le Seigneur à travers son investissement à la Ligue. C'est le plus grand honneur qu'on puisse faire à la Ligue et aux personnes responsables. Et je suis du coup frappé aussi et réjoui de voir mes collaborateurs qui sont salariés, ne pas travailler simplement parce qu'ils sont salariés, mais travailler parce que c'est pour le Seigneur. Et du coup, c'est un honneur d'être, j'allais dire, salarié et de travailler pour le Seigneur en même temps.
On ne peut pas terminer l'émission sans faire allusion à l'Internet, puisque c'est par le biais de ce média qu'on s'est rencontrés. Vous ne faites pas partie de ces chrétiens un petit peu méfiants par rapport à ces nouvelles technologies, surtout Internet?
Internet reste un média, au même titre que la page imprimée a été sortie du temps de Gutenberg, qu'il y a eu l'écriture bien avant aussi sur du papyrus, qui a eu les tam-tams, qui a eu la fumée ou quoi que ce soit pour communiquer. Donc Internet est un média, c'est-à-dire un moyen de communiquer. Et on veut se rappeler que Dieu, notre Dieu de la Bible, est un Dieu de communication. Il veut communiquer avec les uns et les autres. Et Internet est un média qui permet de communiquer. La communication, quelle qu'elle soit, elle peut avoir ses travers aussi. comme la page imprimée, comme, comme la télévision, comme la radio. À nous de savoir en user sans en abuser et à savoir l'utiliser avec, avec sagesse. Et cette sagesse, c'est celle de faire en sorte que ce média soit entre les mains de Dieu, que ce média soit utilisé pour la cause de l'Évangile.
Il y a sans doute beaucoup des amis qui font partie du réseau par lequel on s'était rencontrés, qui vont écouter ce programme. C'est des amis virtuels, mais quand même, on sent que cette relation, parfois, ça peut devenir une vraie relation réelle. Et auriez-vous un mot de salutation pour tous ces amis qui nous écoutent sur ce site que je me garde de citer le nom?
Mais je les salue vraiment très, très amicalement, fraternellement, en ayant l'espoir de les voir face à face. Parce que ce qui est important, c'est la rencontre relationnelle. C'est vrai que vous citiez le fait et vous rappeliez le fait que, c'est-à-dire, on s'est d'abord rencontré virtuellement à travers des sites internet. C'est une joie, moi, de pouvoir vous voir et de vous parler directement, Franck. Donc c'est l'espoir que je nourris de voir les uns et les autres, mais vu le nombre et vu la distance, ça sera peut-être pas possible sur cette terre, mais par notre communion aussi avec Jésus-Christ, on peut vivre cette relation et cette dimension de fraternité les uns avec les autres, et se dire et avoir cet espoir, cette ferme espérance qu'un jour on verra non seulement Jésus face à face, mais on se verra, on se rencontrera les uns et les autres.
Merci beaucoup. Et pour conclure, quel est votre tout dernier mot, Monsieur Marc Dereux?
Je ne peux qu'encourager les gens à réaliser combien Dieu les aime. Quand on réalise ça, je veux dire, on est ouvert à passer du temps avec Dieu, à faire en sorte que la priorité dans nos vies, dans nos choix, ça soit pas l'argent, ça soit pas le pouvoir, ça soit pas certaines relations, mais que ce soit d'abord Dieu. Parce que c'est lui qui va déterminer tout le reste. Et quand on a compris ça, je pense qu'on peut, on peut trouver une sérénité dans la vie. Et ça, on le trouve aussi dans une proximité de la Bible. Chose extraordinaire, c'est qu'on est une génération qui avons la Bible sous toutes ses formes. Alors c'est pas pour rien que ça nous est donné pour la lire, pour la méditer, pas simplement que pour l'étudier, c'est une bonne chose, c'est une grande chose que de l'étudier, mais pour la prendre pour soi aussi, pour la recevoir comme un cadeau de Dieu, comme une parole de Dieu, ce qu'elle est.
Monsieur Dereux, la radio Ebenezer International vous remercie, et moi personnellement je vous dis merci de m'avoir fait confiance et d'accepter mon invitation pour ce programme. Que Dieu vous bénisse.
Sociopode sur Ebenezer International.
Allons partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Allons partout dans le monde, Jésus qui nous a libérés. Allons partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Allons partout dans le monde, Jésus qui nous a libérés.
Désormais, nous ne sommes plus Jésus-Christ nous a libérés, son sang précieux nous a franchis.
Désormais, nous ne sommes plus esclaves de Satan, car Jésus-Christ nous a libérés, son sang précieux nous a franchis. Désormais, nous ne sommes plus esclaves de Satan, car Jésus-Christ nous a libérés, son sang précieux nous a franchis.
Alors lève-toi, mon père.
y a peu d'ouvriers alors.
Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, 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 allons prêcher l'évangile. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, allons prêcher l'évangile.
Désormais, nous ne sommes plus esclaves de Satan. Jésus-Christ nous a libérés, son sang précieux nous a franchis.
Pourquoi ma soeur resterais-tu à nous refaire?
Nous
soyons grands mille, y a peu d'ouvriers. Tu as ne rien faire, même son écran, il y a peu d'ouvriers alors.
Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Allons, 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 allons prêcher l'évangile. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur.
Vous écoutez la station qui se penche particulièrement sur votre édification spirituelle. Ebenezer International, votre radio.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis fidèles de la radio chrétienne Ebenezer International, voilà qui met fin à ce nouveau numéro de Sociopod qui était consacré à l'association La Ligue. Vous venez d'écouter l'intervention du directeur de la branche française, M. Marc Dereux, qui nous a permis de mieux comprendre le mode de fonctionnement de cette association chrétienne. Je vous rappelle que la Ligue est au service des individus, des groupes et de toutes les églises chrétiennes. Elle collabore avec les œuvres chrétiennes et agit auprès des enfants, des jeunes, des adultes et des familles. Notez surtout que toutes les activités de cette association et ses ressources sont proposées sans but lucratif. Plusieurs sont disponibles gracieusement. L'objectif principal de cette association, c'est surtout de servir, même sans contrepartie. Et c'est pourquoi, comme vous pouvez le comprendre, sans votre soutien, par votre aide, vos prières et vos dons, la Ligue ne pourrait nullement vivre et développer sa mission. Avant de partir, j'aimerais remercier tout d'abord M. Dereux qui a répondu fraternellement à notre invitation pour participer à cette émission. Et c'était dans une ambiance très amicale que nous avons enregistré ce programme. Et j'en profite pour saluer tous les membres de l'équipe, que ce soit les salariés ou les bénévoles. Et nous prions pour que le Seigneur continue de les utiliser dans ce ministère pour répandre la bonne nouvelle partout sur la terre. Mes remerciements vont également vers tous les artistes qui ont contribué à la réalisation de l'émission, commençant par Dany et Moïse Urtrel, Philippe Degourou, Peggy Polito, qui sera bientôt notre invité dans la rubrique Mykonak, les chérubins de Pierrefitte ou de Sarcelles, l'artiste Pat Bernin, à qui nous devons le générique de l'émission, ainsi que la société Sephora Musique de la Vie, l'un des partenaires officiels de la radio chrétienne Ebenezer International. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, je vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de Sociopod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur Franck Doristil qui vous dit une fois de plus, merci, que le Seigneur vous bénisse et au revoir.
Vous venez d'écouter Sociopod sur la radio chrétienne Ebenezer International.
Tu dis tort. Faut décider, bannir tes doutes et t'engager.
Hiver de mille et des poussières, je tire ma révérence. Dernier appel, dernière prière, moi j'écoute en silence. J'ai fait le mieux que j'ai pu faire, je laisse pas de regrets.
je passe le flambeau, tu es derrière, sans moi pour annoncer une autre terre, un autre ciel, pour toi un nouvel univers sous le soleil. Fini ma route, je pars sans toi, je laisse pas de doute, je t'attends là-bas. Je t'attends là-bas.